Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on étudie l'évangile de Luc et on voit Jésus parcourir la Galilée. Maintenant, il est en route vers Jérusalem et il continue à annoncer le même message, celui que ses disciples ont annoncé alors qu'il les a envoyés. Il les a envoyés deux par deux. Il les a envoyés dans toutes les villes et les villages sur son chemin vers Jérusalem. Donc, on comprend que Jésus, lorsqu'il se déplace vers Jérusalem en passant de ville en village, il va dans des endroits où ses disciples étaient passés avant lui. Mais il va pour, apporter une invitation finale, une invitation solennelle à tous ceux qui l'entendent, un message où il invite les gens au salut. Donc, c'est un message adressé à tous, mais qui est en même temps très personnel. Chacun est interpellé. Et la question que Jésus pose, finalement, c'est « Es-tu sauvé? » Et ceux qui ne savent pas, bien, sauvé de quoi? Jésus l'annonce, sauvé du jugement dernier, de l'enfer. Puisque tous les hommes ont péché, chacun de vous avait péché. Vous êtes condamnés s'il ne se passe rien, là. Êtes-vous épargné du jugement de Dieu? Est-ce que la condamnation qui pesait sur vous est enlevée? Pouvez-vous vous compter parmi ceux qui sont sauvés? Donc, c'est une question très fondamentale. Et dans le premier passage qu'on va lire aujourd'hui, c'est deux courts passages qu'on étudie, mais Jésus adresse cette question-là directement. Il va parler de la question, ce qui est un thème dur, finalement, des paroles dures. Et on pourrait se méprendre lorsqu'on lit le texte, parce qu'on n'entend pas la voix de Jésus, on pourrait se méprendre sur le ton que Jésus prend. Mais le deuxième passage nous montre vraiment son cœur. Il n'était pas là pour juger ou pour condamner. Son message, même s'il annonçait le jugement à venir, l'enfer pour ceux qui ne se repentent pas, son message était motivé par l'amour, la compassion. Et même, il était touché par un sentiment de tristesse, une émotion de tristesse profonde, en voyant la grande quantité de gens qui refusaient son message, qui le rejetaient. Et ça le touchait, ça touchait ses disciples qui le suivaient. Mais c'est un thème important et je suis très humble devant vous. Je me fais comme un porte-parole de Dieu qui s'adresse à chacun de nous. Et c'est une tâche qui n'est pas légère. Et surtout que le passage qu'on va voir ce matin a été interprété de toutes les manières inimaginables. Si vous faites une petite recherche sur Internet ou si vous lisez dans des commentaires bibliques, les façons d'interpréter les paroles de Jésus sont innombrables. Donc, prions tout de suite le Saint-Esprit pour qu'il nous dirige dans cette étude. Seigneur Dieu, nous croyons à ton Saint-Esprit comme étant une personne réelle, personne divine, troisième personne de la Trinité, le Dieu trinitaire que tu es, le seul vrai Dieu. Et nous croyons que le Saint-Esprit, comme ton Fils Jésus l'avait annoncé, est réellement venu sur terre pour régénérer les âmes, les esprits de ceux qui étaient morts, pour leur redonner vie, pour permettre une nouvelle naissance, pour enlever le voile qui est sur nos yeux, nous donner des yeux spirituels pour comprendre ta parole, comprendre tes Écritures. Le même Saint-Esprit qui a inspiré la Bible, l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, ce même Saint-Esprit-là, nous lui faisons appel, Seigneur, pour qu'il nous éclaire, qu'il nous fasse comprendre ce message, que nous puissions l'appliquer, chacun de nous, dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous te prions, Seigneur Dieu. Amen. Donc, tournons d'abord dans Luc 13, à partir du verset 22. Luc 13, l'Évangile de Luc, chapitre 13, nous allons lire verset 22 à 30. Jésus traversait les villes et les villages, et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Quand le maître de maison se sera levé, et aura fermé la porte, et que, resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire, « Seigneur, ouvre-nous! » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous commencerez à dire, « Mais nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans nos rues. » Et il vous répondra en disant, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Il y aura là des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors, il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Un discours solennel de la part de Jésus. Donc, Jésus se déplace de ville en village et alors qu'il se déplace, quelqu'un lui demande et là, prend la peine de dire que c'est quelqu'un. On ne sait pas c'est qui. Mais probablement qu'il représentait un groupe, ou peut-être qu'il se faisait comme porte-parole d'une question que plusieurs se posaient. Puisque Jésus répond non seulement à cet homme, ou cette femme, cette personne, non seulement à lui, mais à tous. Et sa question est simple. Est-ce qu'il y a peu de gens qui sont sauvés? On sait que le ministère de Jésus produisait quand même beaucoup de disciples, mais ça représentait une minorité de la population. De grandes foules venaient voir Jésus. Il attirait de grandes foules. Soit que les gens venaient parce qu'ils voulaient assister à un miracle, par curiosité. C'était tout un événement, là. C'était le personnage à voir à cette époque. Et où les gens venaient pour être guéris ou soulagés de leur emprise démoniaque, ou tout simplement parce qu'ils avaient faim, ils voulaient un peu de pain parce qu'ils avaient entendu parler que Jésus nourrissait les foules. Donc, il attirait beaucoup. Certains étaient impressionnés par son discours, l'autorité qu'il avait, à quel point il était même capable de défier les pharisiens, les chefs de synagogue. Mais ce qui est triste, c'est qu'une grande partie de ceux qui étaient attirés par Jésus refusaient finalement de croire en lui, sincèrement. Ils ne devenaient pas croyants. Il y avait quand même une minorité qui se convertissait réellement, qui devenait ses disciples. Son message était différent de celui des chefs religieux. C'est peut-être pour ça que cet homme-là a posé la question, est-ce qu'il y en a peu qui seront sauvés? Parce qu'à l'époque, lorsqu'on lit ce que les pharisiens enseignaient, c'était d'avis commun là, que pas mal tout le monde dans le peuple d'Israël était sauvé, faisait partie de ceux qui allaient dans le royaume de Dieu. C'était un salut qui était national. Il y avait de rares exceptions de gens, d'hommes ou de femmes qui n'étaient pas sauvés. Les grands criminels, les meurtriers, les prostituées, ou ceux qui finalement reniaient Dieu carrément. Donc, c'était des exceptions, ceux qui n'étaient pas sauvés, mais à la base, tout bon juif, tout israélite était sauvé. Mais le message de Jésus est radical. On l'a vu dans les passages précédents, il faut porter sa croix pour le suivre. Il faut être prêt à renoncer même à des liens familiaux qu'on peut avoir, renoncer à ses biens. Les gens se posent la question, là. Wow, est-ce que finalement c'est seulement peu de gens qui seront sauvés? C'est une question légitime et c'est une question qu'on peut se poser encore aujourd'hui, lorsqu'on voit le peu d'ouverture de la population au message de l'Évangile. Il suffit de faire un peu de porte-à-porte pour se rendre compte que la porte ne s'ouvre pas souvent. Ou de parler à ses collègues de travail pour se rendre compte qu'il y a très peu d'intérêt. Ou à ses voisins. Donc, c'est une question qui est légitime. Mais on peut être étonné, Jésus, qui est Dieu sur terre, ne répond pas directement à sa question. Oui, c'est sous-entendu la réponse, mais il ne répond pas, oui, effectivement, il y aura 15% de la population mondiale qui sera sauvée. Oui, il ne donne pas de chiffres. Mais on sait finalement que ça va être un grand nombre. Lorsqu'on lit dans l'Apocalypse, là, une foule innombrable qu'on ne peut même pas compter est là pour adorer Dieu. Mais c'est quoi le pourcentage que ça représente par rapport à la population mondiale? On ne sait pas. Jésus n'entre pas dans ce débat-là, à savoir, est-ce que c'est une grande partie des Juifs? C'est pas beaucoup. Finalement, il retourne la question et il la transforme. Ce n'est plus une question générale, théologique, académique, c'est une question personnelle. La manière dont il répond à cet homme-là, il le force à réfléchir, est-ce que tu es sauvé, toi? C'est ça la vraie question. Ce n'est pas de savoir il y en a combien. Toi, est-ce que tu es sauvé? Jésus répond, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » C'est sous-entendu dans la réponse de Jésus que c'est quand même peu de gens qui se convertissent. La porte est étroite. Il mentionne plus loin que beaucoup cherchent à entrer dans le royaume de Dieu et finalement n'auront pas place, ne pourront pas y entrer. Donc, c'est des indices qui montrent qu'effectivement, il y en a peu. Donc, peut-être que plusieurs, lorsque Jésus parlait, ont été insultés d'entendre sa parole. On ne voit pas ici la réaction des gens, mais c'était insultant, surtout qu'on sait qu'il y avait des chefs religieux sur place. Bon, on va le voir un peu plus loin, qu'il y a des pharisiens qui parlent aussi. Jésus est en train de leur dire, finalement, vous devez vous efforcer. Il est en train d'insinuer que personne, par défaut, là, est sauvé. Même celui qui a posé la question, Jésus lui dit, non, si tu ne fais rien, tu n'es pas sauvé. Jésus prêchait la repentance. Il dit, efforcez-vous d'entrer si vous voulez être sauvé. Donc, à la base, là, vous ne l'êtes pas. Et même, il annonce qu'un jour, la porte leur sera fermée au nez s'ils ne font rien. S'ils n'écoutent pas ce qu'il est en train de leur dire, un jour, le maître de la maison va fermer la porte. Un peu comme quand Dieu a fermé la porte de l'arche, quand le déluge est arrivé. C'était fini, là. Il n'était plus question d'entrer dans l'arche. Il y a seulement Noé et sa famille qui ont été sauvés. Donc, un jour, le maître va fermer la porte. Ce maître, c'est le Seigneur lui-même. Là, on a un indice ici. Qui est le maître de cette maison-là, de la maison de Dieu? Mais c'est Jésus. Parce que ceux qui vont lui dire, « Seigneur, ouvre-moi, on a mangé avec toi, on a bu avec toi, tu nous as enseigné dans nos rues. » C'est Jésus, finalement, le maître de la maison. Et lorsqu'il dit même, lorsqu'ils vont plaider, « On a mangé avec toi, on a bu avec toi », il faut savoir que ça veut dire qu'on a été en relation plus intime avec toi. À l'époque, les repas étaient longs. Des fois, aujourd'hui, on mange en 10 minutes, là. Mais à l'époque, ça prenait du temps, là, préparer le repas. On était à la table pendant peut-être quelques heures, là. Donc, d'avoir mangé avec Jésus, ça voulait dire on a vécu un bout avec toi, là, on t'a connu. Là. Comment ça se fait qu'on n'a pas notre place au ciel? Et ils seront stupéfaits. Mais il sera trop tard pour entrer. Seuls ceux, finalement, qui sont connus par Jésus pourront entrer. Les autres se feront dire, je ne sais pas d'où vous êtes. Vous avez beau m'appeler Seigneur, vous avez beau prétendre faire partie de ma maison, je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où vous êtes. Et ça, Jésus le répète deux fois dans son exposé. Et ils sont caractérisés par une vie de péché, d'injustice, de vous qui commettez le mal, le evil qu'on lit dans la version anglaise, mais vous qui vivez dans le péché, vous démontrez par votre vie que vous ne faites pas partie de ma maison. Vous ne pouvez pas entrer. « Écartez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Jésus ici reprend le psaume 6, verset 9. Et il dit à l'avance, « Beaucoup d'entre vous, donc beaucoup de Juifs, vont pleurer amèrement, grincer des dents, peut-être par remords ou même de rage, d'une émotion extrême. » Là, beaucoup vont pleurer, vont être dans une rage, d'une douleur extrême, de ne pas pouvoir être dans le royaume de Dieu. Et de savoir que Abraham, leur père, Isaac, Jacob sont là, avec tous les prophètes. Jésus est en train ici de décrire l'enfer, finalement. Et pour eux, pour les Juifs, il n'y avait pas une situation pire à imaginer, là, de ne pas pouvoir être réunis avec les pères, avec leur père, de ne pas pouvoir être dans la maison de Dieu, qu'ils pensent servir, dont ils pensent faire partie de sa famille. Et pour ajouter à l'insulte pour eux, ce qui est inimaginable, c'est que non seulement eux seront privés de l'accès, ils seront jetés dehors, mais des gens vont venir de tous les coins du monde, de l'est, de l'ouest, du nord, du sud, et eux vont manger à la table d'Abraham. Jésus est en train de dire finalement que des païens, des gens dans le royaume grec, là, dans l'empire romain, juste dans toutes les nations du monde, vont finalement être admis dans la maison de Dieu, alors que des Juifs, des Israélites vont en être exclus. C'est choquant pour les Juifs d'entendre cela. Et Jésus va jusqu'à dire que certains des derniers, ceux que les Juifs considéraient les derniers, c'était vraiment les païens, là, ceux qui vivaient sans même connaître l'Éternel, qui ne craignaient pas Dieu. Certains de ces derniers-là vont passer avant eux, seront des premiers. Et certains, malheureusement, de ceux qui sont les premiers, ceux qui ont reçu premièrement la parole de Dieu, ceux à qui l'Évangile a été annoncé en premier, bien finalement, vont être considérés comme les derniers. Donc, la question que l'homme cherchait à savoir combien seront sauvés est transformée en question très personnelle. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je serai sauvé? Est-ce que je vais pouvoir entrer dans la maison de Dieu? Donc, le salut n'est pas une question nationale, une question de naissance. C'est une question de nouvelle naissance. Et chaque homme doit y passer. Chaque personne doit naître de nouveau pour entrer. Et on peut l'appliquer directement à nous dans notre contexte évangélique. Plusieurs ont grandi dans l'Église. Depuis qu'ils sont tout petits, ils sont dans l'Église. Leurs parents étaient chrétiens. Parfois, les grands-parents, arrière-grands-parents étaient chrétiens. Ça ne veut absolument pas dire qu'automatiquement, on est compté parmi les serviteurs de Dieu, parmi ses enfants. Ça demeure une question personnelle pour chacun d'entre nous. Même ceux qui un jour ont témoigné d'avoir pris une décision d'accepter le Seigneur, d'accepter que Jésus vienne habiter dans leur cœur, même ceux qui se sont fait baptiser, ça ne veut pas dire automatiquement qu'ils sont sauvés. Qui sera donc sauvé? Mais c'est celui qui écoute Jésus, qui écoute son enseignement. Et qui fait quoi? Qui s'efforce de le suivre, qui s'efforce d'entrer par la porte étroite. Même s'efforcer ici, là, lorsqu'on lit le verbe en grec, ça a donné le verbe agoniser. Ça veut dire de travailler, là, de lutter, de combattre de toutes ses forces, comme un athlète qui s'entraîne durement pour gagner la médaille d'or. C'est vraiment ça le verbe, de s'efforcer de toutes ses forces pour passer. Donc, ça demande une volonté, ça veut dire on se concentre sincèrement, là, on veut entrer. C'est pas juste qu'on dit « ouais, ça a du bon sens, puis je signe en bas ici ». Ça demande vraiment un investissement de tout son être, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force. Le vrai chrétien, on le voit dans tout le Nouveau Testament, le vrai chrétien est engagé dans un combat qui dure combien de temps? Un jour, deux jours? Toute la vie. C'est un combat spirituel qui finalement dure toute la vie. C'est un combat où est-ce qu'on lutte contre le péché, contre Satan qui veut se réjouir à nous voir tomber, contre les désirs de notre chair. C'est un combat de tous les jours, là, où il faut veiller, ne pas s'endormir. Le vrai chrétien est engagé dans ce combat-là. Malheureusement, beaucoup se disent chrétiens et vivent dans la vie quotidienne sans que ça fasse aucune différence dans leur valeur, dans leurs priorités, dans leur pratique, même dans leur but dans la vie, dans leurs aspirations, la manière dont ils investissent leur temps, leur argent, dans leur amitié, dans leur fréquentation, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils aiment. Le fait qu'ils soient chrétiens ne change absolument rien. Mais ils disent « Ah, mais j'ai cru que Jésus est mort pour mes péchés, donc je suis sauvé. » Il y a quelque chose qui cloche. Ces chrétiens qui ne produisent aucun fruit dans leur vie, est-ce qu'ils sont réellement chrétiens? Paul met en garde Tite lorsqu'il lui écrit. Fais attention, il dit, ils font profession de connaître Dieu. Peut-être même qu'ils sont convaincus de connaître Dieu. Mais ils le renient par leurs œuvres. Donc, qui sont ceux qui sont sauvés? Ce sont ceux qui décident consciemment, qui veulent à tout prix entrer par cette porte étroite, qui sont conscients qu'il n'y a que cette porte-là qui donne accès et qui s'efforcent d'entrer. Ils ne sont pas négligents, sans soucier, mais vraiment qui sont sincèrement en train de suivre Jésus, de porter leur croix. Cette déclaration-là de Jésus pourrait nous décourager, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but de décourager ceux qui sont déjà des enfants de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais Jésus a pour but de brasser ceux qui croient, qui sont en train de gagner leur place au ciel, qui croient qu'ils sont déjà sauvés et qui ne se sont jamais repentis. C'est pour ça que Jésus dit, plusieurs chercheront à entrer, mais en seront incapables. Et à l'époque, la majorité des Juifs pensaient qu'ils étaient sur la voie d'être dans le royaume de Dieu, qu'ils étaient comptés parmi ceux qui étaient sauvés. Et finalement, Jésus leur dit, ils seront incapables d'entrer. La porte va leur être fermée. Donc, la séparation va se faire entre ceux qui s'efforcent d'obéir à Jésus en cherchant la sainteté et ceux qui, finalement, ne s'en préoccupent pas. C'est ça qui caractérise finalement chacun des groupes. Une vie consacrée à suivre Jésus, à chercher la sainteté, en tombant mais en se relevant, ou une vie de péché où est-ce que ça ne nous dérange pas d'être dans la boue, d'être sale, de salir le nom de Jésus. Il y a une chose importante à comprendre ici, c'est que Jésus ne dit pas qu'il y en a qui vont essayer d'entrer par la porte étroite et qui ne vont pas y arriver. Ceux qui ne vont pas y arriver, c'est ceux qui ne se soucient pas de la porte étroite. Les autres, ils veulent rentrer par la grande porte. Ils pensent que par leur légalisme, ils vont y arriver, ou par le fait qu'ils sont de bonnes personnes, ils vont y arriver, ou ils pensent que parce qu'ils ont réussi à trouver un système pour expliquer que Dieu est un Dieu bon, inclusif, qui veut que tout le monde soit au ciel avec lui, qu'ils vont être admis. Jésus dit, non, il n'y a aucun moyen, là. Oubliez ça, le seul moyen, c'est de rentrer par la porte étroite, qui est Jésus, finalement. C'est Jésus, la porte. Mais tous ceux qui obéissent au commandement, c'est un commandement de Jésus, efforcez-vous d'entrer. Tous ceux qui obéissent à ce commandement-là, efforcez-vous d'entrer, vont entrer. C'est une chose sûre. Jésus n'est pas en train de dire, si vous réussissez à atteindre un niveau satisfaisant, vous allez entrer. Non, tous ceux qui s'efforcent d'entrer par la porte étroite vont entrer. Finalement, ils sont déjà sauvés. C'est la caractéristique d'un vrai chrétien sauvé, c'est qu'il s'efforce d'entrer. C'est sûr que c'est paradoxal, puis on a de la misère à comprendre tout cela. Mais Jésus le dit, les véritables chrétiens, ce sont ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je lisais récemment l'épître de Pierre. Puis tout au long de son épître, Pierre nous exhorte, là, il faut persévérer. Si vous abandonnez, le commencement du jugement de Dieu se fait sur sa propre maison. Ne soyez pas négligents, là. Efforcez-vous. Mais ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Quelqu'un pourrait nous accuser en disant cela que nous prêchons le salut par les œuvres. Ce que Paul dénonce, c'est ceux qui veulent mériter leur place au ciel en ajoutant des bonnes actions dans leur vie, en se faisant une liste de choses qu'ils ne veulent pas faire et réussir à s'en tenir, en pensant gagner la faveur de Dieu. Ça, ce sont ceux qui s'efforcent, qui cherchent à entrer. Et finalement, qui en seront incapables. Celui qui veut gagner une place au ciel par des œuvres, par l'observance de la loi, ne réussira pas. C'est impossible. Finalement, si tu veux passer par ce chemin-là, Jésus le dit, sois parfait. Il faut que tu aies 100% sur ton examen, sinon tu ne passes pas. Donc, le seul moyen d'être sauvé, ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce de Dieu. Par la foi en ce que Jésus nous a dit et ce que Jésus a fait. La foi en Jésus qui est mort pour nous, pour payer le prix. C'est ça qu'on célèbre avec la table du Seigneur. Jésus est mort pour payer le prix. Sinon, aucun de nous pourrait entrer. On serait disqualifié et voué à l'enfer éternel. Donc, si on croit que Jésus est mort pour nous, on croit à ce que Jésus nous a dit, on obéit à ses commandements, on croit sur parole que c'est bon et que c'est la seule voie pour entrer au ciel, on obéit et tout cela se passe. Tout cela est rendu possible par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, comment elle s'opère dans nos vies, pendant que nous sommes encore sur la terre? Premièrement, par la grâce, Dieu nous pardonne nos péchés. Lorsque nous croyons en Jésus, il efface nos péchés, il nous rend justes. Même, c'est tellement sûr qu'on est décrit comme étant déjà assis au ciel avec Jésus. Mais pour le temps que nous avons sur la terre, la grâce de Dieu fait en sorte que nous nous efforçons de devenir justes. Nous nous efforçons de devenir saints. Nous sommes dans un chemin, une progression où notre objectif est d'être saints, de ressembler à Jésus. De travailler finalement à gagner notre salut. Comment ça c'est possible? C'est parce que nous sommes déjà sauvés. Mais ces deux points de vue sont présentés dans tout le Nouveau Testament. Dieu nous demande de nous efforcer à entrer, à suivre Jésus, à mener une vie qui n'est plus une vie de péché. Et il le répète souvent, là. Les menteurs n'ont pas leur place au ciel. Les voleurs, les orgueilleux, ceux qui causent des querelles, ceux qui sont malhonnêtes, mais tous ces mondes-là ne vont pas au ciel. Donc, l'exhortation est toujours là. Soyez saints, soyez saints. Pour être sauvés, pour entrer au ciel. Mais tout cela est possible seulement pour ceux que Dieu a sauvés. Ceux pour qui Dieu a envoyé son Saint-Esprit qui vient dans le cœur, qui transforme l'intelligence, qui donne même le vouloir et le faire pour suivre Jésus, pour finalement être sauvé. Donc, les gens qui, honnêtement, ont entendu Jésus ce jour-là, ont été forcés d'avouer que j'y arriverai jamais. Et ceux qui, honnêtement, ont compris « j'y arriverai pas », se sont tournés vers Jésus et sont devenus de véritables disciples de Jésus. Et par sa grâce, Jésus les a sauvés. Il les a rendus capables de passer par la porte étroite. Mais il faut d'abord faire le constat que nous-mêmes, on est incapables. Sinon, notre foi, on a bien beau dire qu'on croit au Seigneur Jésus, qu'on croit en Dieu. Comme dit Jacques, notre foi, sans les œuvres, est morte. Ce n'est pas une vraie foi. Donc, les paroles de Jésus sont dures, sont tranchantes. Il y en a qui croient servir Dieu, qui croient être sauvés, qui finalement ne le sont pas. Tout dépend de notre marche fidèle envers le Seigneur. C'est pour ça que le Nouveau Testament est rempli d'exhortations pour nous remettre en question. Il ne faut pas que finalement on arrive à la fin de nos jours et qu'il soit trop tard, qu'on ne se soit jamais converti pour vrai. Mais il ne faut pas se méprendre sur le cœur de Jésus. Lorsqu'il dit ça, ce n'est pas pour juger, condamner, mépriser. Il a un cœur vraiment motivé par l'amour. Et le simple fait qu'il se dirige vers le lieu où il sera mis à mort montre qu'il est bien intentionné. Et lorsqu'il parle, c'est la compassion qui l'anime. Lisons à partir du verset 31. Luc 13, 31. À ce moment-là, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Mais il leur dit, « Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons, j'accomplis des guérisons, aujourd'hui et demain, et le troisième jour, ce sera pour moi l'achèvement, ou la fin. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. » Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, ou délaissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Donc, des pharisiens viennent dire à Jésus, « Hérode veut te tuer. Il faut que tu t'en ailles. » Donc, c'est comme s'ils l'avertissent du danger. « Fais attention, on est au courant. Hérode cherche à te tuer. T'es mieux de partir, là. Il faut que tu t'en ailles. » Est-ce qu'ils veulent vraiment protéger Jésus, d'après vous? Je suis pas sûr, hein? De toute façon, lorsqu'on lit le récit dans Luc, on ne voit pas Hérode qui cherche à tuer Jésus. C'est possible, okay? Mais ce n'est pas ce que le récit nous montre. On lit dans Luc 9, Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean. Alors, qui est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? » Et il cherchait à le voir. Il voulait voir Jésus. Il n'a pas envoyé des mercenaires pour le tuer, là. Et plus tard, lorsque finalement il va le voir, lorsque Jésus comparaît pour son jugement dans Luc 23, lorsqu'Hérode le vit, il en eut une grande joie, car depuis quelque temps, il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait lui voir faire quelques miracles. Il voulait assister à un bon spectacle. Donc, il ne voulait pas le tuer sans avoir vu les miracles. En tout cas, logiquement, il me semble que c'est une invention de la part des pharisiens. Pourquoi? Pour faire en sorte que Jésus déguerpisse. Il dérangeait. Il était en train de sous-entendre qu'eux-mêmes, les pharisiens, avaient besoin de se repentir pour être sauvés. Eux qui prétendaient avoir la première place dans le royaume des cieux. Donc, ils voulaient le voir partir. Et Jésus, il ne dément pas ce qu'ils disent, mais il leur dit, « OK, ben allez dire à Hérode. » Donc, le simple fait qu'il les envoie parler à Hérode, il est en train de sous-entendre qu'il sait qu'ils sont en relation, en tout cas qu'ils sont du même côté contre lui. Officiellement, ils étaient des ennemis puisque Hérode représentait Rome. Mais face à Jésus, ils étaient ensemble. Ils étaient alliés, finalement. Même à la fin, on va voir que Pilate et Hérode deviennent des amis en jugeant Jésus. Jésus témoigne, vous êtes avec Hérode de toute façon, allez lui dire à ce renard, qui est comme un animal qui représente la ruse, un animal sournois, manipulateur. Mais eux, s'ils sont de pair avec lui, ça veut dire qu'eux-mêmes sont rusés, sournois, manipulateurs. Mais il dit, allez leur dire que j'ai un travail à faire et que de toute façon, peu importe ce qu'il a à m'accuser, voici ce que je fais. Et mais n'importe qui a assisté à mes actes peut en témoigner. Je fais du bien à la population dont il est supposément le roi. Je chasse les démons, je guéris les malades. Je fais du bien partout où je vais. De quoi il va m'accuser? Et ce, le bien que je fais, c'est Dieu, le Père, qui m'envoie le faire. Donc, je vais continuer à le faire. Je vais continuer aujourd'hui, demain, et le troisième jour, le jour après. C'est une manière de dire, je ne vais pas arrêter. Je me dirige vers Jérusalem et je vais continuer ma mission. Ce n'est pas parce que Jésus est inconscient du danger qu'il dit, je vais continuer. Il sait très bien que le danger est réel. Mais finalement, il sait qu'il ne lui arrivera rien jusqu'à Jérusalem. Et il sait qu'à Jérusalem, finalement, il va trouver la mort. Il sait très bien ce qui l'attend. Donc, aucune menace ne pourrait le décourager. Il sait que finalement, rien ne pourra le faire mourir jusqu'à l'instant où Dieu le Père a décidé qu'il allait mourir. Et il va mourir. Ça montre tout le cœur de Jésus aussi. Même dans cette déclaration-là, Jésus se destine finalement à mourir pour ceux à qui il prêche, ceux à qui il invite de se repentir, de le suivre. Il va mourir pour eux. Et puisqu'il est prophète, ce n'est pas les hommes qui vont dicter sa marche, c'est Dieu lui-même, celui qui l'a envoyé sur terre, c'est lui qui lui a donné sa mission, c'est lui qui dicte sa marche. Et Dieu a décidé qu'il allait mourir à Jérusalem. Et quelle ironie, Jérusalem, la ville sainte, qui représente finalement la sainteté de tout le peuple, c'est elle qui tue Jésus, suivant le modèle de tous les prophètes avant lui qui sont morts à Jérusalem, par les autorités religieuses du pays. Et Dieu veut que Jésus poursuive cela, il va mourir par ces mêmes autorités-là, à la même manière que les prophètes de l'Ancien Testament. Et Jésus n'a pas un ton moqueur, même si c'est ironique. Il est rempli de tristesse. Et ce qu'il, la lamentation qu'il déclare pour, face à Jérusalem est touchante, c'est très beau. Et Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Ça reprend l'image de Dieu dans l'Ancien Testament, l'Éternel, qui a souvent donné comme illustration qu'il accorde sa protection, il offre sa protection sous ses ailes. Comme une poule va cacher ses poussins lorsqu'il arrive un danger, une tempête, ou un prédateur, ou un feu. Et la poule est prête, s'il le faut, à mourir pour protéger ses enfants. Mais c'est l'attitude vraiment de Jésus, qui est comme l'attitude de Dieu, son Père, la même. Et finalement, j'ai même l'impression que la portée des paroles de Jésus ici va plus loin même que son ministère terrestre. J'ai l'impression que même lorsque les prophètes étaient envoyés dans l'Ancien Testament par Dieu pour ramener le peuple à lui, lorsque le peuple s'écartait, que c'était Jésus qui parlait à travers eux. Lorsque Jésus dit « Combien de fois j'ai voulu vous rassembler? » Je pense qu'il parle de toutes les fois dans l'histoire d'Israël où Dieu a voulu rassembler. C'est Jésus, c'est Dieu, finalement. Jésus est encore une fois en train de confirmer qu'il est Dieu, il est l'Éternel. Et son cœur, c'est qu'il veut que son peuple soit sauvé. Mais pourquoi ils ne le sont pas? Parce qu'ils ne le veulent pas. Ils demeurent responsables de rejeter les prophètes systématiquement. Et là, le dernier prophète qu'ils rejettent, ce n'est pas n'importe quel prophète, c'est Dieu lui-même. Le maître de la maison, là, le Seigneur, envoie son fils pour parler et il le rejette et le met à mort. Et pourtant, Jésus les aime et il pleure pour eux. Il dit, votre maison, finalement, puisque vous me rejetez, vous sera laissée ou délaissée. Ici, c'est difficile la traduction. On peut le comprendre dans deux sens. On va vous laisser avec votre maison, puisque vous rejetez la maison de Dieu. Ou on peut comprendre aussi, la maison Israël va être comme abandonnée. puisque on va se tourner finalement vers les quatre coins du monde, vers les nations, et vous ne me verrez plus. L'offre pour accepter le Messie qui vient, là, va passer. Vous allez manquer le bateau. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Là, encore, il y a beaucoup d'interprétations possibles, et même si j'ai une position amillénariste, je crois que Jésus, ici, est en train de parler d'un jour où les Juifs vont finalement se convertir à Christ, vont finalement comprendre que le Messie annoncé dans Ésaïe 53, c'est Jésus. Qu'il n'y a pas de Messie à venir, c'est Jésus, c'est lui. Et j'espère, je prie pour cela, qu'un jour, il va y avoir beaucoup de Juifs qui vont se convertir. Une conversion massive, au point où est-ce que, lorsque Jésus va revenir dans la gloire, il sera accueilli, louangé, adoré, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est donc animé par l'amour, la compassion que Jésus dit au monde entier, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » C'est sûr que ça fait naître une peur à ceux qui ne savent pas, là. Mais c'est bon de craindre Dieu pour se convertir et être sauvé. C'est le seul moyen d'être épargné du jugement de Dieu, épargné de l'enfer. Et il faut le faire avant qu'il soit trop tard. Avant que le Seigneur revienne, que le Maître ferme la porte, ou avant qu'on arrive finalement à la fin de nos jours, comme on lit dans Hébreux, réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après, pour lui, qu'est-ce qu'il attend? Le jugement. Et on ne sait pas c'est quand le jour où on va mourir. Ça peut être ce soir. C'est Dieu qui a notre destinée entre ses mains. Et qu'est-ce que ça veut dire de s'efforcer d'entrer par la porte étroite? Ça veut dire de se repentir, sincèrement. Et il faut, à un moment donné, dans notre vie, qu'on ait réalisé à quel point on était pécheur, à quel point on est coupable, à quel point on mérite finalement d'aller en enfer et qu'on est incapable de s'en sortir et qu'on crie à Dieu pour avoir sa grâce. Puis quand on l'a, là, on est tellement heureux, par reconnaissance, on consacre notre vie à lui obéir. Le vrai chrétien ne veut plus être dans la saleté, veut être dans la propreté, ne veut plus se cacher dans l'ombre, mais veut être dans la lumière, veut suivre le Seigneur. Et quelle est la promesse pour tous ceux qui s'y efforcent? Mais tous seront assis à la table de Jésus dans le royaume des cieux, avec Abraham, Isaac, Jacob, tous les prophètes. C'est toute une promesse, là. Croire en Jésus, c'est croire en cette promesse-là. C'est ça, finalement, qui nous drive, qui nous motive à persévérer à tous les jours, même dans l'opposition, dans les épreuves. C'est de savoir que notre place, là, il y a un petit carton sur la table du banquet, là, dans le royaume des cieux, et mon nom est écrit là, là. Ma place est réservée. Wow! Ça, c'est toute une promesse de la part de Dieu. Donc, relevons nos manches. Pas pour chercher l'approbation de Dieu ou espérer peut-être être sauvé, mais parce que nous sommes sauvés. Parce que Dieu a payé le grand prix en faisant mourir son Fils. Relevons nos manches pour nous efforcer de passer par la porte étroite. Amen.